Alors, si vous le permettez, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Le titre de la méditation de ce dimanche matin est la déception. Aïe, 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 aïe. On va pas rigoler aujourd'hui matin. C'est la déception. Mais il y a un sous-titre. Et le sous-titre, là, il devient intéressant. Que ferait Jésus à ma place? Je commencerai l'introduction du message, parce qu'il y a une introduction au message, par une question. Est-ce que vous avez déjà été déçu par quelqu'un? On voit des sourires qui s'affichent de ce côté, des têtes qui font comme ça de l'autre, ben oui, hein. Si je prends par exemple le milieu familial est parfois bien décevant. Nos parents nous ont peut-être déçus. Nos enfants nous ont peut-être déçus. Notre conjoint nous a peut-être déçus. La vie est bien décevante. Ne trouvez-vous pas? La déception ne tue pas, mais elle saigne au plus profond de notre cœur. La déception ne nous épargne pas non plus lorsqu'il s'agit d'amitié. Qui de nous n'a jamais été trahi par un ami que nous croyons fidèle? Au travail, les collègues sont décevants. Dans l'Église, les frères et sœurs en Christ sont parfois décevants. Que le monde est décevant. En préparant ce message, j'ai trouvé des dizaines, pour ne pas dire des centaines de citations sur la déception. Au cours de mes recherches, j'ai même découvert un site qui recense 744 références concernant les sentiments. 744 sentiments différents. Et parmi ceux-ci, eh bien évidemment, il y avait la déception. Si vous regardez sur Internet, vous découvrirez que le seul moyen de ne pas être déçu, c'est de n'attendre rien de personne. Paolo suit, tout va bien. Je suis allé voir dans le dictionnaire la définition du mot déception et j'ai trouvé ceci. La déception est le sentiment ressenti par une personne qui a été déçue, qui a été trompée dans son attente. Et la définition continue, c'est une personne ou une chose qui est responsable, qui est la cause, on va dire, plutôt que responsable, qui est la cause de ce sentiment. Alors, quels sont les synonymes du mot déception? Eh bien, comme synonyme, nous avons, vous allez voir, que des mots agréables à entendre, hein. Nous avons amertume, chagrin, contrariété, crève-cœur, déboire, déconvenu, dépit, désappointement, et la liste ne s'arrête pas là, hein. Désenchantement, désillusion, douche. Ah ben, moi, quand on me parle de douche, hein, moi, je pense souvent qu'elle est froide. Alors, si c'est vrai que j'ai été souvent déçu, eh bien, j'ai certainement été, moi aussi, une source de déception pour les autres. Alors, je voudrais partager avec vous ce sujet qui est la déception. Vous l'aurez compris, souvent, ce sont les autres qui nous déçoivent. On pourrait ajouter à cette liste, qui me paraît déjà un peu longue, du moins pour certains, on pourrait ajouter une équipe de football. Ah, le Standard! Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont mal joué! Je suis déçu. Ah ouais, je suis déçu. Pour d'autres, un coureur cycliste ou un parti politique. Il y a pourtant, dans cette longue liste, il y a quelqu'un dont on n'a pas encore parlé. Et cette personne, je vais la nommer. Cette personne est quelqu'un qui avait toute ma confiance. Cette personne m'a fortement déçu. Et j'étais loin de penser qu'un jour, il me déçoive à ce point. Eh bien, cette personne, c'est moi. Oui, c'est moi. Ai-je toujours été à la hauteur avec ma femme, avec mes filles, avec mes frères et sœurs en Christ, avec mes amis, avec mes collègues de bureau? Mais non, je ne pense pas que j'ai toujours été à la hauteur. Ai-je toujours répondu aux attentes de ma femme, aux attentes de mes filles, aux attentes de mes frères et sœurs en Christ? Non, je ne pense pas. À bien y réfléchir, la plus grande des déceptions que nous puissions connaître n'est-elle pas celle qui est causée par soi-même? Tout comme le docteur Jekyll et Mr. Hyde, en moi sommeillent deux hommes. Bien, le premier, c'est l'homme que je voudrais être. Et l'autre, c'est l'homme que je suis. Eh bien, l'homme que je voudrais être est très déçu par l'homme que je suis. L'homme que je voudrais être parle de sanctification. Ouais. Mais l'homme que je suis freine des deux pieds. L'homme que je voudrais être parle d'amour fraternel. Mais l'homme que je suis se retire dans sa solitude, dans sa caverne, à la moindre petite déception. Ne nous arrive-t-il pas parfois d'être déçus par nos propres réactions? Ne nous arrive-t-il pas parfois d'être déçus de nous-mêmes à tel point que notre estime, l'estime de soi, eh bien, elle se retrouve au niveau zéro, voire au moins un à la cave? Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que la déception est un des sentiments les plus pénibles dans la vie. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai préparé ce message. J'ai été déçu. Ouais. Et ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal ici. Ma déception a engendré un mal-être, et le mal-être a engendré un blocage, et j'ai été stoppé net. J'ai plus envie de rien faire. Et c'est à la suite de cette déception que je me suis posé la question, mais que ferait Jésus à ma place? Aujourd'hui, nous essayerons de voir comment Jésus a réagi face à la déception. Quelles ont été ses armes? Comment les a-t-il utilisées? Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un verset de la Bible. Et ce verset, qui est le plus court de la Bible, dit ceci, « Jésus pleura ». Ce verset est souvent utilisé comme exemple pour montrer la douleur de Jésus face à la mort de son ami Lazare. Il est souvent pris comme exemple pour montrer que Jésus a de la compassion pour ceux qui pleurent, pour ceux qui sont dans le deuil. Et si c'est vrai que cette première approche nous touche, il n'en demeure pas moins vrai qu'il peut y avoir une deuxième approche. Et cette deuxième approche parle de déception. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble, mais avant de commencer, nous allons prier. Prions. Père éternel, merci pour ta parole. Ta parole, Seigneur, lumière donnée aux hommes. Père admirable, nous te demandons de bénir ta parole, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous fasse progresser. Seigneur, nous te demandons de faire taire les bruits du dehors, tous ces bruits qui nous empêchent d'écouter, d'entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Et c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Jésus pleura. Par deux fois dans la Bible, Jésus pleure. La première fois, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est devant le tombeau de Lazare. La seconde fois que nous voyons pleurer notre Seigneur, c'est lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Lors de ces deux événements, Jésus pleura. Tout au long de sa vie, Jésus a dû faire face à l'incompréhension, il a dû faire face à l'incrédulité. Et c'est à cause de ses sentiments que Jésus pleura. Pour bien comprendre cette déception, eh bien, nous allons lire tout un contexte dans lequel se trouve ce court extrait, ces deux mots, Jésus pleura. On va lire 44 versets. Alors, j'ai tendance à vous dire, ne prenez pas votre Bible, vous pouvez la prendre, mais ne la prenez pas parce que je vais prendre la version Parole de vie qui est fort différente de la version Second. En plus, j'ai enlevé un verset par-ci, par-là. Et je vais m'arrêter de temps en temps pour faire un commentaire. Mais si vous voulez le prendre, le passage se trouve dans Jean chapitre 11, versets 1 à 44. La mort de Lazare. Il y a un homme malade appelé Lazare, et il habite Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Et quand Jésus entend cela, il dit « La maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Ainsi, elle donnera de la gloire au Fils de Dieu. » Jésus aime Marthe et sa sœur, et Lazare leur frère, et il apprend que Lazare est malade, et pourtant, pendant 2 jours, Jésus reste là où il est. Ensuite, il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Ses disciples lui disent, « Maître, l'autre jour, il n'y a pas si longtemps que cela, des Juifs cherchaient à te tuer en te jetant des pierres. Et tu veux retourner là-bas ?» Notre ami Lazare s'est endormi. « Je vais aller le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il s'est endormi, c'est donc qu'il guérira. » Alors Jésus leur dit clairement, « Lazare est mort, et je n'étais pas là, et je m'en réjouis, à cause de vous. De cette façon, vous pourrez croire en moi. Mais allons plutôt auprès de Lazare. » Alors Thomas, appelé le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons, nous aussi, pour mourir avec Jésus. » Eh bien, je suis consterné. Je suis consterné de voir que malgré les nombreux mois passés en compagnie du Maître, les disciples n'ont toujours rien compris. Jusqu'à sa mort sur la croix, les disciples espèrent que Jésus, le Messie, va renverser l'occupant romain. Jésus a beau donner des explications en long, en large et même en travers, eh bien, ils ne comprennent pas ce qu'il leur annonce. À cause de leur incompréhension, à cause de leur incrédulité, Jésus se trouve dans l'obligation, et je dis bien dans l'obligation, de laisser mourir son ami Lazare. Je n'étais pas là, et je m'en réjouis à cause de vous. C'est à cause de vous que j'ai laissé mourir mon ami Lazare. Afin que vous croyiez en moi. Et c'est ce que nous venons de lire. Incroyable. Incroyable comme le Seigneur doit être déçu par tant d'incompréhension, par tant d'incrédulité. 2 années parsemées de miracles. De miracles tellement nombreux que Jean dira dans son évangile au chapitre 20, verset 30, Jésus a fait, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. 2 années de vie commune pour en arriver là. Afin que vous croyiez en moi. 2 années communes pour en arriver là. Le Seigneur est bien patient avec ses disciples. De la même manière, il faut bien le reconnaître. Le Seigneur est bien patient avec nous. Depuis combien de temps sommes-nous chrétiens? Depuis combien de temps lisons-nous notre Bible? Depuis combien de temps marchons-nous avec le Seigneur? Et pourtant, nous devons bien le reconnaître. Nos vies ne reflètent toujours pas la gloire de Dieu. De combien de temps aurons-nous encore besoin pour nous laisser transformer par notre Seigneur? Nous venons de le chanter. Te ressembler, Jésus. Te ressembler, c'est mon désir. Si un jour nous voulons ressembler à Jésus, eh bien, il faudra que nous nous laissions transformer. Reprenons le texte. Verset 18. Béthanie est près de Jérusalem, à 3 kilomètres environ. Et c'est pourquoi beaucoup de Juifs sont venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprend que Jésus arrive, elle part à sa rencontre. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Magnifique déclaration de Marthe à son Seigneur. Cette simple phrase est l'illustration grandiose de la toute-puissance de Dieu. « Seigneur, si tu avais été là, avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas, j'en suis sûr. » Verset 23. Jésus lui dit, ton frère se relèvera de la mort. Marc lui répond, oui, je sais, il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour. Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela ? Marthe répond à Jésus, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir. » Deuxième magnifique déclaration de Marthe à Jésus. Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. En faisant cette déclaration, Marthe ne répond pas à la question de Jésus. Est-ce que vous avez remarqué, lorsque Jésus lui pose la question, est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois que la vie c'est moi? Elle ne répond pas à la question. Et vous savez pourquoi? Eh bien tout simplement, c'est parce qu'elle est déçue. Jésus n'a pas répondu à ses attentes. Il n'est pas arrivé à temps pour guérir son frère. Ses sentiments, et nous reviendrons tout à l'heure sur les sentiments, parce que les sentiments, c'est quelque chose qui nous gouverne, c'est quelque chose qui, c'est très important, c'est une chose très importante, et nous ne pouvons pas passer au-dessus des sentiments. Les sentiments de Marthe ont pris le pas sur la foi. Elle croit en la résurrection. Oui, intellectuellement, elle y croit, mais pas dans l'immédiat. Reprenons la lecture de notre texte, verset 28. Après que Marthe ait dit cela, elle part chercher sa sœur Marie. Et elle lui dit tout bas, « Le maître est là et il te demande de venir. » Quand Marie entend cela, elle se lève immédiatement et puis elle va trouver Jésus. Les Juifs qui sont dans la maison avec Marie pour la consoler, la voient se lever et sortir et ils pensent, elle part vers la tombe pour pleurer là-bas. Alors, ils la suivent. Et lorsqu'elle est arrivée à l'endroit où Jésus se trouve, elle se jette à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus voit qu'elle pleure. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurent aussi. Alors Jésus est bouleversé, troublé. Il frémit. Où est-ce que vous l'avez mis? Seigneur, viens et vois. Verset 35. Jésus pleura. Les Juifs disent entre eux, regardez comme il aimait Lazare. Mais d'autres disent, il a ouvert les yeux de l'aveugle, mais il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir. De nouveau, Jésus est bouleversé, il frémit, il part vers la tombe. Et c'est une grotte avec une grosse pierre, placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Mais Jésus lui répond, « Je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Retenons bien cette phrase, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Nous reviendrons tout à l'heure sur cette phrase. Verset 41, on enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit, « Père, je te dis merci. Je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais. » Dans la version seconde, Jésus dit, tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours, je le sais. Mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. Ensuite, Jésus crie d'une voix forte, Lazare sort de là. Et Lazare sort, lui qui était mort. Jusque-là, la lecture. Eh bien, voilà un miracle qui va coûter très cher à Jésus, puisque c'est à la suite de ce miracle que les chefs religieux décident de le faire mourir. En allant en Judée, à 3 kilomètres à l'est de Jérusalem, pour sauver son ami Lazare, Jésus va au-devant de sa propre mort. La résurrection de Lazare est le dernier miracle accompli par Jésus avant le début de sa passion. Alors je voudrais dire un petit mot quand même, je ne fais pas de politique, mais quand on parle de la Cisjordanie, c'est la Judée et la Samarie. La Judée se trouve à 3 kilomètres à l'est de Jérusalem. Ce sont des territoires qui ont, je vais dire, toujours appartenu à Israël. Donc faisons bien attention quand nous lisons ce mot-là. Cisjordanie, c'est la Samarie et la Judée. Jésus est bouleversé. Il est troublé. Il frémit. Et Jésus pleure. Que pouvons-nous dire d'autre concernant les larmes du Seigneur? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Jésus ne verse pas des larmes de deuil. D'ailleurs, il n'y a pas de raison qu'il verse des larmes de deuil puisqu'il va ressusciter Lazare. Ce ne sont pas des larmes de deuil que Jésus verse ici. Non. Jésus est déçu, il est déçu par l'incrédulité qui l'entoure. Pour décrire les pleurs de Jésus face au tombeau, l'apôtre Jean utilise un verbe qu'on ne trouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Ce verbe grec signifie « verser des larmes en silence ». Bon, moi je connais pas ni le grec, hein, ni l'hébreu, donc j'ai dû faire des recherches pour essayer de mieux comprendre ce passage, et j'ai trouvé ceci. Non seulement Jésus verse des larmes en silence, mais l'apôtre Jean utilise une forme verbale qui décrit un état qui dure dans le temps. Alors tout ça, c'est bien théorique, hein, mais ce que je voudrais que nous comprenions, c'est qu'au lieu de traduire tout simplement par « Jésus pleura », il aurait fallu traduire « Jésus laissa longtemps couler ses larmes, sans retenue, à la manière d'un barrage qui déverse son trop-plein, sans retenue, en silence. Lorsque Jésus fera son entrée triomphale à Jérusalem, Jésus versera des larmes de deuil sur Jérusalem, parce que quelques années plus tard, Jérusalem sera détruite par les Romains. Et pour décrire des larmes de deuil, eh bien Jean utilise un autre verbe. Et ce verbe évoque un cri de douleur, à haute voix, à la manière des pleureuses qui accompagnent les cortèges funèbres. Dans le passage qui nous occupe aujourd'hui, Jésus laissa longtemps couler ses larmes, sans retenue, en silence. Ce sont là des larmes de déception. Jésus est bouleversé, troublé. Il frémit, il pleure. Si, comme nous venons de le voir, les larmes de Jésus ne sont pas dues au décès de son ami Lazare, alors nous sommes en droit de nous poser la question, mais alors pourquoi frémit-il? Notre Seigneur frémit devant l'injustice de la mort. Jésus ne s'y résigne pas. Bien au contraire. Jésus est venu dans le but de combattre la mort. Celui qui relève de la mort, c'est moi, nous dit Jésus. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Jésus frémit, il est indigné. Il est indigné parce que les conséquences de l'incrédulité, c'est la mort. Une mort définitive. Et ça, Jésus ne le veut pas. Ça, Jésus ne peut pas accepter la mort définitive. Celle qui nous sépare à tout jamais du Père. Jésus est venu sur la terre dans le but de vaincre la mort. En tout cas, dans le but de vaincre la mort définitive. Jésus est venu livrer un combat sans merci contre l'adversaire. Jésus ne retient pas sa révolte intérieure. C'est pour relever ce défi qu'il a été envoyé. Satan a été vaincu sur la croix. Ne l'oublions pas. La victoire a déjà été remportée. La mort de Jésus sur la croix est la plus belle victoire que l'humanité ait connue. Jésus meurt sur la croix à cause de mon péché. Il meurt sur la croix à cause de ton péché. En mourant sur la croix, Jésus nous donne la vie. Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi, nous dit Jésus. Mais il y a une condition à cela. Pour avoir la vie, eh bien, il faut accepter le sacrifice de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus frémit car il connaît le prix à payer. Le prix à payer pour remporter cette victoire, c'est la mort. Une mort infâme sur la croix. Et lorsque nous lisons Ésaïe 53, nous comprenons mieux les raisons pour lesquelles notre Seigneur Jésus est mort. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà pourquoi le Christ frémit devant le tombeau où se trouve le corps inanimé de son ami Lazare. Comme nous avons pu le lire dans le passage relatant la résurrection de Lazare, tout le monde dans ce passage est déçu. Marthe est déçue. Jésus n'est pas arrivé à temps pour guérir son frère. Marie, pour les mêmes raisons, elle est déçue aussi. Les Juifs qui sont venus assister, soutenir Marthe et Marie, ah ben ils sont déçus aussi. Il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir. Ouais, il a ouvert les yeux des aveugles, mais ça, il n'a pas su. Ils sont déçus. Les disciples, eh bien les disciples, ils ne font pas mieux. Alors Thomas appelait le jumeau, dit aux autres disciples, oh là 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 là, allons-nous aussi pour mourir avec Jésus? Oh, ils sont déçus. Ils espèrent un Christ glorieux. Oui, quelqu'un qui va renverser les armées romaines. Pas un Christ qui va à 3 kilomètres à l'est de Jérusalem pour recevoir des pierres sur sa tête. Non, ils sont déçus, oui. Finalement, tout ce climat de déception et d'incrédulité font que Jésus est lui aussi déçu. Jésus devait certainement attendre un peu mieux de ses disciples. Que pense notre Seigneur Jésus? Quels sont ses sentiments lorsqu'il dit « afin que vous croyiez en moi » 2 ans de vie commune pour en arriver là. « Afin que vous croyiez en moi ». Alors comme je comprends mieux les larmes du Seigneur, les larmes que Jésus a versées, elles ont été versées aussi sur mon incrédulité. Elles ont été aussi versées sur ma déception. La déception, notre déception, a souvent pour effet de couvrir, de cacher les promesses de Dieu. Y a-t-il plus belle promesse que celle-ci? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, eh bien il vivra. Y a-t-il plus belle promesse que celle-ci? Marthe déçue est passée à côté de cette promesse. Rappelez-vous, lorsque Jésus lui dit « Crois-tu en cela ? Crois-tu en cette magnifique promesse ? Ah, elle répond une bonne réponse, hein. Oui. Mais elle répond à côté de la plaque. Elle ne répond pas à la question de Jésus. Alors je le répète, la déception, notre déception, a souvent pour effet de couvrir, de cacher les promesses de Dieu. Déçu, Jésus pleure, il pleure sur mon incrédulité, il pleure sur ton incrédulité, et il laisse couler longtemps, longtemps ses larmes, sans retenue, en silence. Les disciples ne le comprennent pas. Les religieux de l'époque ne le comprennent pas. Ses amis le plus cher, ne le comprennent pas. Jésus est déçu à tel point qu'il pleure. Néanmoins, il ordonne « ôtez la pierre ». Jésus ne permet pas aux sentiments, quels qu'ils soient, d'affecter son ministère. Et ça, c'est important. Jésus dit « ôtez la pierre ». Alors, qu'en est-il de notre façon d'agir, hein, lorsque nous sommes déçus? Personnellement, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de baisser les bras, de me lamenter sur mon triste sort, et je fais mon calimero, personne ne m'aime, personne ne me comprend. Mon élan, hein, le peu d'élan que j'avais, eh bien, il est stoppé net. Jésus agit. Il agit. Il dit, ôtez la pierre. Et vous remarquerez que le verset suivant dit, et ils ôtèrent donc la pierre. Lorsque nous sommes déçus, nous faisons souvent comme Marthe et Marie, nous nous enfermons dans une prison d'incrédulité. Tandis que Jésus transforme sa déception en foi, en action, en victoire. À la gloire de Dieu. Comment réagissons-nous face aux déceptions que nous apporte la vie? Comment réagissons-nous quand nous nous trouvons devant les tombeaux dans lesquels nos espoirs, nos aspirations sont enfouis? Les tombeaux qui abritent nos espoirs de bonheur, nos espoirs de prospérité, nos espoirs de bénédiction pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos amis, pour notre assemblée, comment réagissons-nous? Est-ce que nous réagissons comme Marthe et Marie, qui permettent à la déception de compromettre leur conduite, qui permettent à la déception de compromettre leur vie spirituelle, qui permettent à la déception d'occulter les promesses de Jésus? Ou bien est-ce que nous réagissons comme Jésus? Jésus refuse de permettre à la déception d'affecter son ministère. Ôtez la pierre. Jésus enlève la pierre de la déception pour changer les larmes, pour changer le deuil, pour changer la défaite en bonheur, joie et victoire. Ô mort, où est ta victoire? Au tout début de ce partage, je vous avais promis de voir avec vous quelles sont les armes utilisées par Jésus. Il y a trois armes. Ces trois armes se trouvent dans le texte que nous avons lu. La première arme que Jésus utilise est la suivante. Toujours le Seigneur va de l'avant. Même déçu, Jésus va de l'avant. Ôtez la pierre. Est-ce que nous sommes bien d'accord avec cela? Jésus ne reste pas devant le tombeau comme ça, médusé, les bras ballants, ne sachant que faire, en se lamentant sur son triste sort. Il ne s'enferme pas non plus dans sa prison, dans sa caverne, dans sa solitude. Jamais Jésus ne laisse ses émotions, ses sentiments prendre le dessus. Tout au long de son ministère, Jésus va de l'avant. Et vous savez pourquoi Jésus va de l'avant? Eh bien, tout simplement parce qu'il connaît le but qu'il veut atteindre. Et ça, c'est important. Sénèque a dit cette phrase, une phrase qui me semble importante pour notre vie de chrétien. Sénèque a dit ceci, « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Mes amis, mes chers frères et sœurs en Christ, aucun vent ne nous sera jamais favorable si nous ne connaissons l'endroit où nous désirons nous rendre. Jésus, il sait, et il connaît sa destination, la croix. Jésus est venu mourir pour mon péché, il est venu mourir pour ton péché. Jésus est venu rétablir la communion qu'il y avait avec le Père, une communion que nous avons perdue. Par le sang de Christ, nous avons un accès direct au trône de la grâce de Dieu. Eh bien, nous aussi, nous devrions connaître le port dans lequel nous voulons nous rendre. Et cet endroit que nous voulons atteindre n'est-il pas le suivant ? Te ressembler, Jésus. Te ressembler. N'est-ce pas ce que nous voulons ? N'est-ce pas ce que nous désirons ? N'est-ce pas ce que tout chrétien doit désirer ? La deuxième arme utilisée par Jésus, et elle se trouve bien évidemment dans le texte que nous avons lu, la deuxième arme est la prière. Quelle que soit la situation dans laquelle Jésus se trouve, il prie. La prière est l'arme que Jésus utilise tout au long de son ministère, et c'est une constante. Toujours Jésus prie, toujours il parle à son Père qui est dans les cieux. Au verset 41, nous pouvons lire ceci. Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Pour moi, oui, je sais, tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. La prière est la deuxième arme utilisée par Jésus. Pas n'importe quelle prière, hein, non. La prière de la foi. La prière de la foi, c'est celle qui affirme déjà la victoire. Je sais que tu m'exauces. Je sais, Seigneur, que tu m'écoutes toujours. Tu m'exauces toujours. Jésus affirme la victoire avant même que de l'avoir remportée. Et ça, c'est la prière de la foi. La troisième arme que Jésus utilise est la suivante. À Dieu seul soit la gloire. Cette arme est, elle aussi, une constante dans le ministère de Jésus. Jésus veille toujours à ce que la gloire de toutes ses paroles, de tous ses actes, revienne au Père. Et nous l'avons lu tout à l'heure. Jésus dit, la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Et un peu plus loin, au verset 40, Jésus dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toujours Jésus veille à la gloire du Père. À Dieu seul soit la gloire. Voilà les trois armes que Jésus utilise contre la déception. Ces trois armes peuvent être aussi utilisées pour combattre d'autres sentiments négatifs, tels que l'amertume. Tout à l'heure, nous avons cité le chagrin, la contrariété, la déconvenue, le dépit. Ces trois armes peuvent aussi être utilisées contre la solitude, pour combattre la solitude. Vous vous sentez seul, alors faites comme Jésus. Toujours il va de l'avant. Toujours il est en communion avec le Père par la prière. Et enfin, toujours il veille à la gloire de Dieu, quelles que soient ses paroles, quels que soient ses actes, à Dieu seul soit la gloire. Je voudrais, avant de terminer, parce que je m'en voudrais de ne pas vous en avoir parlé, puisque je vous en ai fait la promesse, je vous ai dit que la déception avait des meilleurs amis, et cette déception, ben, elle est toujours accompagnée par ses meilleurs amis, et je m'en voudrais de ne pas vous les citer, ses meilleurs amis. Eh bien, ce sont nos émotions. Ce sont nos émotions. J'ai dit qu'on en reparlerait des émotions. Alors, si nous nous laissons gouverner par nos émotions, eh bien, la conséquence, hein, c'est que nous serons déçus. Et la déception arrive à grands pas. Et pour la chasser, eh bien, il nous faudra un long combat. Un combat qui peut durer de longues années. Dieu qui a créé toute chose parfaite. Dieu nous a donné des émotions. Si Dieu avait voulu que nous soyons sans émotion, sans sentiment, eh bien, au lieu de créer l'homme, eh bien, il aurait créé des robots. Il aurait créé des robots. Malheureusement, ces émotions, nos émotions, nous servent souvent de guide. Et nous suivons nos émotions sans réfléchir, un peu à la manière dont nous suivons les indications d'un GPS. Sans réfléchir. J'entends un petit sourire, ça veut dire que je ne suis pas le seul. Hein. Apparemment, eh bien voilà, c'est pour ça qu'on va dans des ornières, hein, parce qu'on ne réfléchit pas. Alors ne nous étonnons pas de nous retrouver effectivement dans des ornières. Et je vais vous raconter une histoire vécue. Tous les 15 jours, je fais une balade dans les bois avec mon ami Robert. Et maintenant, ça fait 40 ans que nous marchons ensemble. Et un jour, nous avons été surpris par une voiture qui nous suivait dans les bois. Hein. Et ce n'était pas un 4x4. Ah ben non. C'était une magnifique berline, toute propre, toute nickel, neuve à mon avis. C'était une grosse BMW. Et lorsque le conducteur est arrivé à côté de nous, hein, à côté de nous, eh bien, il nous a dit que c'est son GPS qui l'avait conduit dans les bois. Alors, ne faisons pas comme ce conducteur, ne suivons pas notre GPS, ne suivons pas nos émotions à l'aveuglette, sans réfléchir, sans avoir pris un conseil divin. Jésus, notre exemple, toujours prie avant d'agir. Nos émotions ne doivent pas être le guide de notre vie. Dieu nous a donné des émotions, certes, comme indicateurs, mais pas comme guide. Le guide de notre vie, c'est Jésus-Christ. Te ressembler, Jésus. Te ressembler, tel est mon désir. En naissant dans le cœur de l'homme, la déception a engendré bien des manifestations émotionnelles négatives. La déception engendre des sentiments négatifs, tels que le tourment. Et lorsque nous sommes tourmentés, eh bien, nous passons de longues nuits de veille. Nous ne trouvons plus le sommeil. La déception engendre la dépression, l'anxiété, la mauvaise humeur. Jésus pleure. Et il laisse couler longtemps ses larmes, sans retenue, en silence. Lorsque nous sommes déçus par quelqu'un, parce que tôt ou tard, un jour ou l'autre, nous serons déçus. Alors prions pour cette personne. Prions chaque jour, prions sans répit et nous verrons notre déception se changer en allégresse. Nous verrons notre déception s'en aller comme elle est venue. Lorsque nous sommes déçus et que nous voulons reprendre du courage pour aller de l'avant, pour faire comme Jésus, nous devons nous souvenir qu'il est notre soutien. Jésus est notre soutien et il compatit à nos faiblesses. Avant de terminer, je voudrais partager avec vous quelques versets. Le premier de ces versets se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 15. Ce verset nous parle de Jésus. Il nous parle de notre souverain sacrificateur. Et ce verset nous dit ceci. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus compatit à mes faiblesses. C'est ce que dit ce verset. Il compatit aussi à mes déceptions. Il compatit à mes détresses. Ce sont là des sentiments qu'il a lui-même éprouvés tout au long de son ministère sur la terre, sans commettre de péché. Lorsque je suis déçu, lorsqu'un être cher m'a déçu, je pense aussi à cet autre passage qui nous parle de Jésus. Ce passage se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 63, au verset 9. Et ce passage nous dit ceci. « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours. Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde. Et constamment, constamment, il les a soutenus, il les a portés aux anciens jours. De toutes nos souffrances, de toutes nos déceptions. Ce n'est pas un messager ou un ange qui nous a sauvés, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même. L'ange de la face de Dieu, c'est Jésus, dans son amour, dans sa miséricorde. Il nous a rachetés, nous dit le texte. Il nous a rachetés au prix fort, au prix du sang versé sur la croix. C'est lui qui nous a portés, c'est lui qui nous a soutenus tout au long de nos jours. Magnifique promesse que nous pouvons épingler, que nous pouvons appréhender, que nous pouvons faire nôtre pour tous les jours de notre vie. Et constamment, il nous a soutenus dans le deuil, dans la maladie, dans la déception. Et constamment, il nous a portés. C'est lui et nul autre que lui qui était au-devant de nous, dans la mêlée, dans la bataille, pour nous protéger, pour nous porter, pour nous supporter, lorsque nous sommes dans la tourmente, lorsque nous sommes dans le doute, lorsque nous sommes déçus. Alors je termine. Lorsque nous sommes déçus, lorsqu'il est trop tard, parce que nous n'avons pas utilisé les trois armes qui ont été citées, Dieu est le plus grand médecin de nos cœurs. Dieu a un remède. Il a un remède pour nous guérir de la déception. Et ce remède est le suivant. Et nous devons nous souvenir, mes amis, nous devons nous souvenir de ses nombreux bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Avant de nous quitter, je voudrais faire encore une courte lecture dans le livre des Lamentations au chapitre 3. Versets 20 à 24, nous devrions connaître ces versets par cœur. Je devrais les connaître par cœur. Et ces versets nous disent, quand je pense à ma détresse et quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux passer et repasser dans mon cœur. Voici ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Éternel, mon Dieu. Que ta fidélité est grande, je le déclare. L'Éternel est mon partage, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux mettre toute mon espérance en lui. C'est en lui que je veux mettre toute mon espérance. Amen.